les saints mettent en lumière tel ou tel aspect de la vie de Jésus à travers leur existence et leurs œuvres. Si on demandait à saint François de Sales quel trait du visage du Christ l'avait plus particulièrement séduit, ce à quoi se résumait pour lui son enseignement, il nous répondrait: notre Seigneur a formé toute sa doctrine en ces deux mots: apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Par ces deux vertus recommandées par Jésus, notre cœur est consacré à son service et s'applique à l'imiter. L'humilité nous perfectionne envers Dieu et la douceur envers le prochain. La douceur l'emporte sur toutes les autres vertus comme étant la fleur de la charité. Oui, la douceur semble bien être la caractéristique de l'évêque de Genève. La douceur est sans doute la marque salésienne par excellence. C'est ce qui frappait le plus les contemporains de saint François de Sales. Nous avons sur ce point le témoignage de saint Jean de Chantal au procès de béatification. Je ne pense pas que l'on puisse exprimer la grande douceur et bonté que Dieu avait répandue dans son âme. Son visage, ses yeux, ses paroles et toutes ses actions ne respiraient que douceur et bienveillance. Il la répandait même dans les cœurs de ceux qui le voyaient. Aussi disait-il que l'esprit de douceur était le vrai esprit du chrétien. Saint Vincent de Paul, qui fut son ami, en a lui aussi été le témoin oculaire. Il écrivait: combien vous devez être bon, ô mon Dieu, puisque tant de douceur est en François de Sales. C'est par la douceur de son amour que Dieu attire l'homme à lui. La grâce est si gracieuse, écrit saint François dans son traité de l'amour de Dieu, la grâce est si gracieuse et saisit si gracieusement nos cœurs pour les attirer. La grâce a des forces, non pour forcer, mais pour allécher le cœur. Saint François l'a expérimenté. Tout au long de sa vie, il a voulu en vivre et l'enseigner pour gagner les âmes à Dieu. Je vous recommande surtout l'esprit de douceur, qui est celui qui ravit les cœurs et gagne les âmes. Poussé par un amour divin dont il connaissait la douceur, rapporte encore saint Vincent de Paul, il a publié cet ouvrage de l'amour de Dieu. Alors, la douceur, est-ce une vertu innée ou acquise? Cette vertu qui l'attirait tant, lui était-elle naturelle ou l'a-t-il acquise après un combat contre lui-même? Une anecdote d'enfance nous montre qu'il pouvait être emporté, colérique. Un protestant fit une visite au château de Sade. Le jeune François fut prudemment écarté. Mais quelqu'un l'avertit en lui révélant la qualité du visiteur. Ne sachant comment exprimer son aversion, il ramassa une baguette de bois, se lança contre les poules et les pourchassa jusque sous les fenêtres où se trouvait le visiteur en criant à pleine voix « Sus aux hérétiques !» On imagine la réaction du père et de l'invité. Saint François avait un tempérament assez vif, mais il n'était ni dur ni violent. Sa nourrice témoigne, c'était un enfant grandement gracieux, beau de visage, affable, doux et familier. Dès son enfance, rapporte Sainte Jeanne de Chantal, selon ce que j'ai entendu dire par plusieurs personnes dignes de foi, on a vu reluire en lui une sagesse, douceur et bienveillance extraordinaire pour cet âge. Ne dit-on pas, la grâce suppose toujours la nature? Si notre saint était appelé à vivre et à prêcher la douceur et l'humilité, n'est-ce pas parce qu'il en possédait les prémices dans son cœur? Quoi qu'il en soit, avec son tempérament ardent, sa douceur habituelle fut souvent mise à l'épreuve. Toute sa vie, il dut surmonter des tentations de colère. J'ai fait un pacte avec ma langue, disait-il, de ne dire aucun mot lorsque je serai en colère. Un autre témoin affirme, il disait qu'il avait acquis par la grâce de Dieu le pouvoir de dompter ses passions colériques à quoi son naturel était enclin. Un jour où Sainte Jeanne de Chantal lui faisait remarquer son manque de fermeté devant l'impertinence d'un interlocuteur qui la jugeait, il lui répondit: voudriez-vous me faire perdre en un quart d'heure ce peu de douceur que j'ai eu tant de peine à acquérir en 20 années? Sa douceur était donc une force, le fruit d'une victoire. Elle fut aussi un moyen de victoire. Pour pratiquer la douceur, comme l'entendait Saint François, il faut une force d'âme peu ordinaire. La douceur salésienne n'est pas à confondre avec la mollesse ou la démission, comme on le croit trop souvent. Elle ne signifie ni refus du conflit, ni naïf d'un monde parfait qui occulte la réalité du mal et du péché. Il n'est pas non plus question de tempérament ou de caractère, de gentillesse ou de charme naturel. Il s'agit pour notre saint docteur d'une décision personnelle disposait de suivre Jésus et de lui ressembler. Cela entraîne forcément des moments de lutte intérieure avec des échecs et des succès. Il écrivait à Saint Jacques de Chantal, il n'y a point d'homme au monde qui chérisse plus cordialement, tendrement et plus amoureusement que moi, car il a plu à Dieu de faire mon cœur ainsi. Mais néanmoins, j'aime les âmes indépendantes, vigoureuses et qui ne sont pas craintives, car cette trop grande affectivité brouille le cœur, l'inquiète et le distrait de l'horizon amoureuse envers Dieu. Ce qui n'est point Dieu n'est rien pour nous. Comment se fait-il que je sente ces choses, moi qui suis le plus sensible du monde? Saint François nous parle de la pratique et de l'utilité de cette vertu avec beaucoup de clairvoyance. Il nous évite aussi les illusions sur nous-mêmes et les pièges de la vanité. Prenez garde, dit-il, que la douceur et l'humilité soient toujours dans votre cœur, car c'est une ruse du démon que d'amener à prendre un maintien extérieur de ses vertus. Ceux qui n'examinent pas leur cœur avec assez de soin pensent parfois être un mépris, alors qu'ils ne le sont pas. Comme on peut s'en rendre compte au fait qu'ils s'irritent et se fâchent à la moindre parole qu'on leur dit de travers, à la plus légère offense. Si piqués et mordus par des médisants, nous devenons fiers, enflés, irrités, c'est que notre humilité et notre douceur n'étaient pas véritables et sincères, mais fausses et mensongères. Nous reconnaissons-nous? Jésus ne nous a-t-il pas appris qu'on reconnaissait l'arbre à ses fruits? On peut singer et avoir toutes les apparences de la douceur, mais quand vient l'épreuve, se révèle le fond des cœurs. La douceur, à l'école de Saint François de Sales, est d'abord nécessaire envers soi-même. L'une des premières applications que nous pouvons faire de la douceur, enseigne le Saint-Évêque, c'est de l'exercer envers nous-mêmes, en ne nous fâchant ni contre nous, ni contre nos imperfections. Ces colères et dépit contre soi-même viennent de l'orgueil et n'ont d'autre origine que l'amour propre. Nous nous châtions mieux par un repentir calme et durable que par un repentir amer et coléreux. D'autant que ce repentir-là n'est pas toujours proportionné à la gravité de la faute, mais souvent incliné par le sens de nos préférences. Quand notre cœur est tombé dans quelque faute, reprenons-le doucement, tranquillement, l'encourageant à se corriger avec plus de compassion pour sa faiblesse que de passion contre sa faute. Il faut avoir patience de les voir et en tirer le profit d'un simple abaissement. Sinon, vos imperfections que vous voyez subtilement vous troublent encore plus subtilement. Elles se maintiennent par ce moyen, car il n'y a rien qui conserve plus nos défauts que l'inquiétude et l'empressement à les ôter. Ceux qui se mettent en colère combattent le mal, mais ceux qui sont doux en sont vainqueurs. C'est assurément dans les rapports avec le prochain que la douceur révèle le mieux sa grâce. On est naturellement plus attiré par le doux que par l'amer. Soyez toujours le plus doux que vous pourrez et souvenez-vous que l'on prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre. S'il faut donner en quelque excès, que ce soit du côté de la douceur. C'était un conseil qu'il donnait à un ami évêque. C'est bien évidemment dans les contrariétés et les contradictions que nous pouvons mettre en œuvre cette vertu et en prendre véritablement la mesure. La vie de notre saint regorge d'exemples à ce sujet. L'expérience m'a appris à ne pas être dupe envers les âmes rebelles, tant qu'il y a espérance de les gagner par la douceur. Aussi, un témoin disait-il que ses ennemis ne passaient pas la quinzaine sans qu'ils ne deviennent ses amis. Je ne sais pas si on peut en dire autant. Et cela se vérifiait souvent. À un jeune homme qui l'a jugé, il dit doucement et aimablement qu'il fallait s'informer de la vérité avant de se mettre en colère. Depuis, ce gentilhomme va boire et manger à la table du bienheureux qui n'a jamais témoigné ce souvenir de cette action indigne. Je note tout de même dans ce témoignage un fait important. Si l'injure est fausse, il faut savoir rétablir la vérité avec douceur et sans retenue. Saint Jean de Chantal, par ailleurs, nous rapporte des propos du saint. Jamais je ne me suis permis de répliques piquantes ni de paroles contraires à la douceur que je ne m'en sois repenti. Les hommes se gagnent par l'amour plus que par la rigueur. Et nous ne devons pas seulement être bons, mais très bons. Et la colère, alors, me direz-vous? Saint François nous déconseille fortement d'agir sous l'emprise de la colère. On ne peut s'empêcher de la ressentir, mais, oui bien, d'agir sous son emprise. Je ne me suis jamais mise en colère, même justement, sans reconnaître par après que j'aurais plus justement fait de ne pas me mettre en colère. Dans l'introduction à la vie dévote, que je vous invite à lire, il y a Il vaut mieux s'exercer à vivre sans colère que de tenter d'en user modérément et sagement. Mais comment la repousser? Il nous donne ce conseil: dès que vous en sentirez les premières atteintes, rassemblez vos forces rapidement, mais sans brusquerie, doucement, mais sérieusement. Priez comme pour tout ce qu'on fait contre ce mal. Priez doucement, paisiblement, sans violence. C'est un bon remède contre la colère, que de la réparer immédiatement par un acte de douceur. Et si l'émotion est trop vive, il conseille encore le silence. Il disait qu'il ne pouvait pas trouver de meilleur remède contre les contradictions que de ne point parler et de demeurer dans une grande douceur à l'égard de celui qui nous les cause. En cas de chute, ça arrive à tout le monde, en cas de chute, il recommande de ne pas se tromper ni s'inquiéter de nous voir imparfaits, mais de reprendre et corriger son cœur doucement et par voie de compassion. Ce n'est pas chose admirable que l'infirmité soit infirme et la faiblesse faible, disait-il à ses visitants divins. Ne voit-on pas là le fruit d'une expérience personnelle? Notre saint a dû lutter lui-même contre la colère pour pouvoir si justement conseiller comment la vaincre. Alors, la douceur salésienne est-elle chemin de sainteté? Si elle apparaît à nombre de personnes parmi nos contemporains comme une faiblesse, c'est en fait une vertu exigeante à vivre. La douceur et l'humilité sont les bases de la sainteté, écrit-il à une des premières sœurs de la Visitation. Pour François de Sales, on ne peut séparer ces deux vertus qui sont l'expression même de la charité. Comme nous l'a dit le Père Armand dans son homélie ce matin, il faut bien l'humilité s'adresse à Dieu et la douceur au prochain. Elle s'applique à une relation fraternelle. Il faut bien tenir ferme en nous ces chères vertus. La douceur envers le prochain, la très aimable humilité envers Dieu. La vraie sainteté gît en l'amour de Dieu. Vouloir faire les extatiques est un abus. Mais venons-en à l'exercice de la véritable douceur et soumission, au renoncement de soi-même, à la souplesse du cœur, à l'amour de notre petitesse, à la bienveillance envers les autres. C'est cela qui est la vraie et la plus aimable extase des serviteurs de Dieu. Nous pourrions terminer sur un dernier conseil donné par le saint pour acquérir la douceur. Écoutez bien. qu'il vous donne la vraie douceur d'esprit qu'il demande aux âmes qui le servent, et de prendre la résolution de bien pratiquer cette vertu-là, surtout envers les personnes à qui vous avez le plus de devoir, et vous en souvenir 100 fois le jour, recommandant à Dieu ce bon dessein. Il écrit ce conseil non à des religieuses, non à ses filles, mais à une dame qui vit dans le monde. Une dame qui est mariée, qui a des enfants. Ce conseil rejoint donc tout chrétien. On voit ainsi que la douceur est à la fois le fruit de la prière et le résultat d'un long et patient travail sur soi. La grâce et la nature œuvrent ensemble sur cette voie de sainteté. Si nous décidons d'emprunter ce chemin, sachons par avance que ce ne sera pas un chemin de facilité, un chemin de tout repos. Tâchons de ne pas nous décourager trop vite et prenons appui sur l'exemple de notre doux et humble François. Si l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, une réaction, une question, vous pouvez vous manifester. On voit quand même que la douceur, c'est pas une chose qui est facile et toute cuite. Ou pour employer une image de Saint François de Sales, comme notre coiffe que nous devons mettre le matin sur notre tête et qui s'enfile facilement. Mais la grâce est là. Alors s'il n'y a pas de réaction, j'ai pensé que nous pourrions prier ensemble la neuvaine à Saint François de Sales. Et puis, après, nous tourner dans le silence de notre prière. Vous avez devant, au pied de la relique, un coffret où vous pouvez déposer vos intentions, une petite corbeille pour prendre un signet. Vous pouvez vous approcher de la relique. Père miséricordieux, tu as donné Saint François de Sales à ton Église comme un pasteur embrasé de l'amour du cœur de ton Fils et un maître spirituel de la connaissance amoureuse de ton mystère. Accorde-nous la grâce de nous laisser attirer avec lui dans le brasier ardent de ta communion trinitaire par le cœur de Jésus, doux et humain, pour que nous puissions coopérer par toute notre vie à l'œuvre de ton amour divin en nous, entre nous et dans la création entière. Par l'intercession de Saint François de Sales et dans le nom glorieux de Jésus, ton Fils et notre Sauveur, nous te demandons la grâce. Chacun demande la grâce qu'il veut dans son cœur, mais c'est peut-être gloire.